suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes au vendredi 23 février de l'année de grâce 2024. Ils sont 11h passées de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Et merci de nous recevoir surtout alors pour ce cinquième numéro de l'émission Club de la Presse sur votre radio. Et c'est pour le compte de cette semaine. La mise en onde de l'émission de ce jour est assurée par Eteda TV, Thomas bien sûr, Géraud Akucha sur la mise en ligne, je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à tous ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoula Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Olivier Adja. Bonjour.
Et bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Je salue aussi les radios partenaires, Ibn Radio, La Paix, etc. Je salue.
Elles sont nombreuses, hein, ces radios partenaires.
Je salue les confrères ici en studio.
Firmin Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
Alors, chroniqueur, grand chroniqueur même d'ailleurs de son temps.
Non, n'exagérez pas.
On n'exagère pas quand on le dit. Alors, Thierry Afanoukoué, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Vous nous avez manqué là.
Ah oui, heureux de retrouver le micro de Canal FM.
Alors, je voudrais vous dire quand même que vous êtes très élégant dans votre accoutrement ce matin.
Merci. Là, je rends hommage à ma femme qui m'a permis de s'habiller ainsi.
Voilà, je pense qu'elle est à l'écoute.
Tout à fait.
D'accord. Alors, c'est là, nous attendons bien sûr Germain Pouli également qui va rejoindre l'équipe pour que l'équipe soit complète, bien sûr. Mais nous avons un invité. Invité, c'est Monsieur Egbamien Mazama Isso. Monsieur Egbamien, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous vos confrères au studio.
Voilà, vous êtes inspecteur des impôts, hein, chef bureau TVM. Et justement, nous allons parler, hein, discuter alors de la TVM. Déjà, quand on parle alors de la TVM, qu'est-ce que c'est?
Donc, merci beaucoup, Pascal, pour l'opportunité, en fait, ce matin, pour parler de la TVM. Bon, avant tout, permettez-moi de remercier tous les médias partenaires qui nous accompagnent dans la vulgarisation de cette tasse. Et permettez-moi aussi d'être admiratif aux actions, aux stratégies de tout le comité de direction de l'Office de Volet de Recettes, à sa tête le commissaire général, le docteur Philippe Kouchaudier, qui met tout en œuvre pour maintenir le dialogue entre les contribuables qui sont nos partenaires et l'administration fiscale. Revenant à votre question, la taxe sur les véhicules à moteur communément appelée TVM est une taxe instituée par la loi, perçue et due pour tous les véhicules et engins à moteur immatriculés en République togolaise.
Alors, quand on parle de la TVM, qui doit payer la TVM?
D'accord. Et suivant les principes fiscaux, tout propriétaire, tout détenteur de véhicules à moteur doit payer sa TVM. Bon, au même moment, la loi aussi a restreint momentanément le paiement pour certaines catégories, pour des raisons d'utilité publique, notamment les véhicules dont les propriétaires bénéficient d'un privilège consulaire ou diplomatique, et les véhicules des forces armées, de la police et de la gendarmerie.
Voilà. Où et comment payer la TVM?
Oui, la TVM, suivant les procédures de digitalisation en cours au niveau de l'Office de collecte des recettes, et nous avons mis, au-delà des méthodes classiques de paiement, notamment les paiements au niveau de la caisse, nous avons écouté les doléances des contribuables, nous avons mis une application en place, OTR TVM téléchargeable sur Play Store, et vous l'installez, et en moins de 3 minutes, vous payez votre TVM.
Alors, quand faut-il payer la TVM? Parce que on sait quand même qu'il y a des échéances, hein, pour payer cette tasse.
Voilà, la TVM est payable au plus tard le 31 mars de chaque année. C'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, tout détenteur ou bien tout redevable et propriétaire de véhicule doit prendre des dispositions pour s'acquitter de sa TVM pour le compte de l'année.
Voilà. Alors, faut-il attendre alors la date de la visite technique pour payer la TVM?
Non, je martèle un non catégorique.
Donc il faut rapidement le faire.
Il faut rapidement. En début d'année, c'est une taxe déclarative. Le contribuable doit prendre des dispositions à son niveau avec sa carte grise ou bien à travers l'application en ligne pour s'acquitter tranquillement de sa taxe et présenter en cas de contrôle.
Voilà. Et à quelles sanctions s'expose-t-on quand on ne paie pas la TVM dans le délai?
Oui. Par rapport aux sanctions, notamment pour tout impôt, droit ou taxe, nous avons des pénalités, des majeures de pénalités, et qui augmentent d'ailleurs même de 1% chaque mois à compter du mois où le paiement a été différé. Voilà. Naturellement, si vous n'êtes pas en règle aussi, et dès le 1er avril, il y a un contrôle routier urbain qui est engagé et vous êtes exposé aux contraintes liées à ce contrôle, notamment le retrait de la carte grise et ce qui n'est pas vraiment bien. Donc c'est tout ceci que nous évitons et nous convions tous les redevables relicatés à ce jour, puisque les gens le paient déjà, mais nous insistons là-dessus. Notre combat, c'est qu'au plus tard le 31 mars, tous les contribuables paient cette TVM. Et ce qui motive aussi ce rappel, c'est que l'année passée et l'expérience que nous avons vécue, les gens attendent les trois derniers jours pour affluer à nos guichets et pour pouvoir payer. Et tenez-vous bien, le 31 mars dernier, nos guichets fermaient à 21h. Et là, même la grande partie n'avait pas payé. Donc, le commissaire général de l'autorité, étant toujours proche du contribuable, était obligé de prendre une petite et d'étaler un peu quelques jours pour faire des déclarations sans pénalité. Mais cette année, je ne pense pas que c'est possible.
Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que des gens sont souvent réfractaires ou du moins n'arrivent pas à payer à temps cette tasse?
Oui, généralement, les gens, au début, il y a eu, je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation, les gens croyaient que c'était à la visite technique qu'il fallait aller payer. Non. Il faut se déplacer selon la loi et venir à l'OTR, et maintenant nous avons l'application où vous procédez à choses. Vu que bon, les contrôles routiers aussi n'étaient pas fréquents par le passé, ils n'avaient pas vraiment quelque chose de difficulté en face. Mais maintenant, vous ne pouvez même pas attendre la visite technique, puisque à partir du 1er avril, sur toutes les AC, il y a les agents de la TVM, les forces en appui, les forces de l'ordre qui font le contrôle. Donc c'est systématique.
Et si vous avez un conseil à donner aux gens, à nos auditeurs, sur le paiement alors de la TVM?
Oui, ce que je dirais depuis 2018, la TVM a fait du chemin. Et en tant que premier responsable, coordonnateur des activités de collecte de la TVM sur le plan national, je sens une maturité fiscale au regard en termes de déclaration. Donc, je convie actuellement les reliquataires, ceux qui ne l'ont pas encore fait, les gens continuent de le faire, de ne même pas attendre d'ici tout le mois de mars de le faire. Nous sommes aujourd'hui au 23, vous avez tout le week-end avec votre smartphone, vous payez tranquillement, au risque de faire face peut-être entre autres aux aléas de l'informatique ou peut-être aux caisses. Donc, je crois que tranquillement, le plus tôt sera le mieux. Donc, nous convions, nous sommes ferme là-dessus, que tous les contribuables prennent des dispositions pour payer la TVM à temps.
Voilà. Monsieur Bamier Mazama Esso, merci d'être passé dans cette émission. Ah voilà, il y a Olivier Zakia, oui, une question pour vous.
Mais je veux savoir, si vous payez en ligne, alors l'obtention de la vignette, puisqu'il faut quand même quelque chose qui prouve que vous avez payé, qu'il faut mettre sur la voiture. Donc, oui. Comment vous l'obtenez après?
D'accord. Merci, Olivier, pour la question. Effectivement, en basculant vers la digitalisation, nous avons pris toutes les dispositions pour le contrôle. Après avoir téléchargé votre quittance électronique après le paiement, vous avez la possibilité d'imprimer la quittance et au besoin au contrôle. D'accord. Vous montrez ça. Ou soit, si vous avez le temps, ce n'est pas venu, vous pouvez faire un tour dans toutes les agences des impôts de l'OTR, on tape votre plaque, on confirme le paiement et on vous tire votre vignette, c'est votre droit.
Et ceux qui ont accumulé, est-ce que, c'est-à-dire, il y en a qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans, qu'est-ce qui est prévu pour ces gens-là? Est-ce sympa par la peur de vous approcher pour payer tous ces frais que les gens peut-être aggravent encore les situations en ne venant pas du tout?
Oui, je crois que le par rapport à cette TVM, Canal FM témoigne suffisamment. Ça fait des années que nous travaillons par rapport à cette TVM et en termes de communication. Et donc déjà même en utilisant l'application en ligne, dès que vous tapez votre numéro de plaque, vous avez l'historique de vos paiements. Chez nous, nous appelons ça votre situation fiscale, vous avez les années à payer. Bon, il n'y aura pas en réalité de reste à recouvrer si vous avez entre-temps signalé une immobilisation de votre véhicule.
C'est ça.
Voilà, donc nous avons pris des dispositions, la loi a pris des dispositions en cas de panne, accident, grosse réparation ou indisponibilité pour au moins minimum sur un an. Vous devez vous engager dans une procédure d'immobilisation au niveau de la TVM. Donc, vous venez, on vous fait remplir une fiche et nous retirons la carte grise originale. Nous faisons la spot situation par rapport à la TVM. Nous géolocalisons et nous suivons le dossier. Nous faisons un suivi technique du dossier sur une période minimum de un an. Après les un an, là, après la période d'un an, si effectivement on se rend compte que le véhicule a été immobilisé, on introduit une demande de certificat de dispense que le commissaire des impôts signe tranquillement.
Au cas contraire?
Bon, au cas contraire, vous êtes appelé humblement à solder et à faire la déclaration.
Est-ce qu'il y a une entente ou quand même, et comment dire, une possibilité de payer par la compte, par tranche, voilà.
Oui, et pour le moment, suivant ce que le cours général a prévu, c'est un paiement unique. Voilà, ce n'est pas fractionné comme les autres impôts. C'est un paiement unique pour le compte de l'année civile. Donc, vous le faites une fois entre le 1er janvier et le 31. Vous voyez que le tarif, c'est par rapport à la puissance. Si c'est 15, voilà.
En fait, on parle des arriérés. On va payer, en fait, tous les arriérés.
Oui, aujourd'hui, la loi, après, avec l'application, comme je le dis, vous avez votre historique de paiement. Si aujourd'hui, vous décidez de payer, vous avez vos 15 000 pour 2021, vous tapez, vous payez pour 15 000. Le lendemain, vous avez pour 20 000, vous payez pour 20 000.
Si vous avez 5 ans, ça fait 5 ans multiplié par le montant.
Oui, la prescription en termes de recouvrement, c'est 4 ans.
Si d'accord. Une dernière question, c'est Thierry. C'est Thierry pour poser votre question rapidement.
La question que je voulais poser, c'est que il y a des interrogations par rapport quand vous achetez un nouveau véhicule. Selon ce qui est rapporté, c'est comme si dans le processus de dédouanement, il y a une taxe qui est payée et qui est forcément la TVM. J'aimerais savoir, quand vous payez nouvellement votre véhicule, vous êtes encore appelé à payer après au cours de la même année la TVM.
Voilà. Et votre question nous renvoie à un peu expliquer le mécanisme, le champ d'application et les modalités de paiement de la TVM. Pour la première année, dès que vous allez au port, généralement, comme nous disons communément, vous payez votre véhicule. Vous payez votre véhicule chez le Libanais. On procède au calcul des droits au niveau de la douane. Au niveau de la douane, dans la liquidation des droits de douane, automatiquement, vous payez la TVM pour le compte de l'année-là. Et c'est au prorata, ce n'est même pas le tarif annuel. Voilà, imaginez, vous avez payé votre véhicule en novembre. Je parle en novembre, donc 2023, ça. Donc, c'est-à-dire que la TVM que vous aurez payée, c'est au prorata. Notamment le tarif annuel fois 2 sur 12, c'est ce que vous allez payer. Okay. Et donc, maintenant, l'année qui suit la deuxième année, vous avez l'obligation de venir vers les services de l'OTR avec votre carte grise pour payer entièrement pour l'année en cours. Donc, pour la première année, au cordon douanier, c'est automatique, c'est liquidé. Voilà.
D'accord, je pense que nous allons en arrêter là pour cet entretien avec Monsieur Ibamien. Monsieur Ibamien, merci d'être passé alors dans cette émission.
Je vous en prie.
Ça fait toujours plaisir. Nos portes sont ouvertes à vous et vous pouvez également venir n'importe quand pour du moins qu'on continue alors ces entretiens. Merci beaucoup puisque nous avons aussi l'impératif du temps. Merci. Et voilà, chers confrères, nous allons maintenant aborder nos sujets d'actualité, et c'est ce qui fait souvent alors le débat au club de la presse ici. Ça fait toujours plaisir alors de le faire, bien sûr. Alors, Olivier, oui. C'est vrai que par rapport surtout à la coupure d'électricité dans notre pays, puisque nous sommes habitués en quelque sorte à ces coupures depuis un temps, et aujourd'hui, quand on voit les dommages que cela crée, ce matin même d'ailleurs, on écoutait par rapport au service d'animation, au service alors d'urgence, France du CHU Sylvanus Olympio, où ça commence pas à créer alors des dommages au niveau alors de ces services.
Non, vous savez que l'électricité, l'énergie électrique, c'est ce qui fait fonctionner, ce qui fait vivre le monde aujourd'hui. Aucun pays ne peut donc vivre sans avoir donc cette électricité-là. En une journée, lorsque vous n'avez pas d'électricité, soit au bureau, soit à la maison, vous voyez comment vous vous sentez. C'est comme quelque chose de très important vous manque. Et au bureau, bon, hélas, vous ne pouvez même pas travailler. Hein, donc, c'est très important aujourd'hui. Et donc, ces délestages que nous connaissons ces derniers temps, venant de la société, et je vous assure que ça crée beaucoup de dégâts. D'abord au niveau de l'économie, mais aussi au niveau des appareils, parce que certains, voilà, sont revenus, donc, et les appareils n'avaient plus la même fonctionnalité, c'est-à-dire, ça avait grillé totalement, d'accord? Donc, et à qui s'adresser? Certainement que vous allez dire, vous allez intenter une action contre la CT, mais c'est tout un parcours de combattant, hein, c'est pas facile, donc, de s'engager dans ce débat. Donc, c'est difficile. Ça, il faut le reconnaître, c'est très difficile, et surtout, par rapport aussi au silence que la CT a gardé pendant un certain moment, bien sûr que ça a été réparé, mais quand même, hein, le Togolais que nous sommes, nous avons souffert de cela.
Réparé, mais les dégâts sont toujours là.
Bien sûr, les dégâts sont là. Vous avez parlé des hôpitaux, pas seulement des hôpitaux, il y a certaines industries peut-être qui n'ont que la CT comme source d'énergie, hein, pour faire fonctionner leur industrie. Il y a beaucoup de choses que cela crée comme dégâts. Et donc, vivement que ça revienne à la normale, même si aussi il faut comprendre qu'il y a eu des efforts. Hein, et selon les informations, peut-être nous allons revenir quand même, selon les informations, la CT fait de son mieux. Mais en tant que et clients de la CT, nous sommes à plaindre parce que on n'a pas eu un contrat avec la CT pour qu'elle fasse de son mieux. C'est qu'elle nous fournisse à temps réel et à tout moment l'énergie électrique.
Nous
donc, il
n'y
a pas d'excuses à donner, même si on peut avoir des explications, même si il y a des contingences qui sont étrangères au pays, à nous, donc la CT ne pourrait pas donc anticiper. Mais tout compte fait, en tant que contractuel ou en tant que client de la CET, nous devons nous plaindre et peut-être même porter plainte contre la CET parce que elle ne respecte pas son engagement vis-à-vis de nous comme en tant que client.
Firmin, oui, quand on voit ces dégâts que la coupure ou le délestage du courant, bien sûr, engendre alors dans des sociétés et tout, et on regarde aussi ces dégâts au niveau des hôpitaux, je pense quand même qu'il y a de l'inquiétude.
Non, maman, je vais vous décevoir. Moi, je n'ai rien à reprocher à la société. Rien du tout. Je ne reproche rien à la société. Parce que la société, c'est quoi? C'est-à-dire, on fabrique de l'énergie, il y a une politique qui est mise en place. La société met en place met en œuvre cette politique.
Mais la société, c'est notre répondant direct en matière d'énergie électrique.
Bien sûr. L'électricité qui la fournit, ce sont les États. Ce sont les États qui prennent toutes les dispositions pour que les gens aient de l'électricité. La société n'est qu'un canal. Si nous sommes arrivés à ce stade, c'est parce que les États ont échoué, les États africains ont échoué en termes d'énergie, en termes de politique énergétique. C'est là où il faut voir. Nous sommes au 21e siècle, 2024, février. Le Nigeria, c'est la première puissance économique du continent. Le Nigeria est en train de souffrir. Et c'est pour ça que le Bénin souffre. Et c'est pour ça que le Togo souffre. Après, on veut dire oui, ça arrive. Quand est-ce que nous allons nous développer? Je me rappelle qu'il y a de cela 12 ans, ou 14, 16 ans, il y avait un ministre français, il s'appelait Jean-Louis Borloo. Il avait dit, je vais parcourir tous les pays africains. Et je vais rencontrer les chefs d'État. Et j'aurais besoin de 600 milliards d'euros pour électrifier toute l'Afrique. Après, le gouvernement Sarkozy est tombé. Et le projet est tombé à l'eau. Pourquoi les chefs d'État africains ne se sont pas saisis de ce dossier pour avoir les 600 milliards d'euros pour électrifier toute l'Afrique? Pourquoi nous n'en souffrions pas? Pourquoi nous ayons une politique énergétique sérieuse? Le problème, ce n'est pas la société. Non, le problème, la société, moi je dis, la société, je l'applaudis. Elle fait de son mieux. Je l'applaudis, la société, bravo. Vous faites de votre mieux. Mais le problème, c'est que moi, le plus responsable ici, c'est le chef de l'État togolais. Et ses amis de la CEDEAO. Et ses amis de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la politique énergétique qu'ils mettent en place? Au 21e siècle, nous hôpitaux encore vont souffrir d'électricité. Mais vous imaginez les médias, les radios, les télévisions qui n'ont pas de groupe électrogène. Lorsqu'on coupe, lorsque la suite coupe, ça veut dire qu'on n'a pas d'émission. Ça veut dire que les chiffres d'affaires vont baisser. Mais ça veut dire au niveau des hôpitaux, les gens peuvent facilement mourir. Ça veut dire au niveau de nos sociétés, mais il y aura des baisses en termes de chiffre d'affaires. Mais à ce niveau, il faut penser. Le développement, c'est tout un ensemble. C'est du sérieux. Moi, je voudrais que les chefs d'État revoient sur leur copie. Parce que moi, par rapport au Togo, moi, je dis, moi, j'applaudis des deux mains les autorités togolaises. Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé, ce qui s'était passé en 2006. Fonia Simbe venait d'arriver au pouvoir. Il a fait un effort énorme ici pour que nous quittions ce délestage. Et aujourd'hui, on voit encore les efforts que le Togo est en train de faire. Mais globalement, les chefs d'État africains ont échoué en termes de politique énergétique. D'accord. Il faut qu'ils revoient leur copie.
D'accord. Thierry, oui, les dégâts sont là aujourd'hui. Hein, et les chiffres d'affaires qui diminuent. Et quand on prend même d'ailleurs les services de réanimation hein, et aussi des services d'urgence au niveau de nos hôpitaux, alors les victimes sont là où on voit même d'ailleurs que des gens meurent dans des conditions parce que il n'y a pas alors l'énergie pour arriver à venir en aide alors à ces gens-là. Ça craint, non?
Oui, je crois que nos hôpitaux, du moins les deux grands hôpitaux que nous avons, ont des budgets autonomes. Je le dis parce que il y a une partie de leur personnel qui est payée sur fonds propres. Donc, il faudrait que ces hôpitaux-là puissent penser, investir dans l'énergie, s'équiper peut-être de centrales solaires ou encore de groupes électrogènes pour faire face à ces genres de situations de délestage. Maintenant, prenons la CET. Alors, est-ce que nous tous nous crions « la CET a fait ci, la CET a fait cela ». Nous sommes d'accord parce que c'est elle l'entreprise qui nous fournit de l'électricité.
C'est elle notre première réponse.
Voilà. Est-ce qu'une seule fois nous nous sommes demandé est-ce que cette entreprise-là fait de chiffre d'affaires au-delà de l'aspect public de cette entreprise-là, elle est avant et après tout une entreprise commerciale. Mais nous avons une société qui est en déficit. Qui est dans le rouge totalement parlant. Quand vous consultez nos différents budgets, vous vous rendez compte que l'apport de la CET par rapport à notre budget est insignifiant. Ça fait plus de 10 ans que le prix que nous avons actuellement est pratiqué. Mais les choses au plan mondial ne font qu'augmenter. Vous prenez le carburant, les énergies et tout ce qui rentre en matière d'énergie, tout est en hausse. Dans certains pays même, ça dit que les gens n'arrivent même plus à faire circuler leur moto parce que le carburant, le prix est très élevé. Donc la CET, c'est une entreprise qui n'arrive même pas à investir. Ce que nous vivons actuellement, c'est vrai que la CET a sorti, je crois, la semaine passée, un communiqué qui disait que oui, il y a des travaux au niveau du Nigeria, puisque le Nigeria nous fournit en électricité, il y a des travaux du côté du Ghana. C'est pour cela qu'on a cette difficulté-là. Mais on ne nous dit pas que la CET devrait aussi à ces pays-là. Ce n'est pas un secret pour personne. Ça avait abondé il y a quelques mois dans la presse que nous devons au Nigeria en termes de factures impayées concernant l'énergie qu'on nous fournit. Que je crois qu'il y a un politique qui a interpellé même la ministre des Mines et de l'Énergie, qu'elle n'a qu'à sortir nous dire ce qui se passe réellement. Mais quand aujourd'hui les autorités investissent dans les panneaux solaires au niveau de Blita et autres là, mais là aussi on ne nous dit pas que ces panneaux là ne tournent pas 24 heures sur 24 heures. Ça a un temps et quand son temps arrive, il faut faire appel toujours au thermique que nous sert la société. Donc le problème est là et on a contour global contour global. Il faut du gaz et du gaz well. Récemment, le Togo est rentré en discussion avec le Niger pour que le Niger puisse nous mettre à notre disposition du gaz well. Mais au même moment que nous sollicitons cela, il faudrait que nous soyons en mesure de payer.
Parce que quand vous êtes un mauvais payeur et que on rentre en situation de crise, ne vous attendez pas que vous soyez les premiers à servir. C'est ceux qui sont les bons payeurs que les pays fournisseurs vont préférer servir pour qu'ils puissent faire rentrer l'argent dans les caisses. Le Nigeria nous fournit également du gaz. Mais sur la ligne, il y a aussi des problèmes. On n'investit pas pour améliorer la ligne, pour qu'on puisse disposer de tout ce qui fait tourner cette turbine-là pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc, c'est un réel problème. Il faudrait que, Firmel a dit, nos autorités pensent véritablement à revoir cette situation-là. Maintenant, si nos appareils sont grillés, nous avons la possibilité de porter plainte contre la CT. Il y a l'ARCE qui peut nous aider ou qui suit ce processus-là. Donc, osons le faire pour que nous soyons bien servis dans ce pays en termes d'énergie. D'accord. Et même par rapport à l'extension du réseau. Aujourd'hui, la CT n'arrive pas à étendre le réseau. C'est pour cela, un peu partout, surtout dans les nouveaux quartiers, nous n'avons que des araignées ici et là. C'est pas bien. Non, c'est alors pas que bien. La ville ne fait que s'agrandir au jour le jour. Donc, il faudrait qu'on puisse revoir notre politique énergétique pour qu'on ne vit plus cette situation de l'estage qui ne dit pas son nom.
Voilà, merci beaucoup Thierry. Germain, nous sommes rejoints bien sûr par Germain Pouli. Germain, bonjour.
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, c'est vrai que quand on suit le développement de Thierry tout de suite, on sent tout simplement que la société est dans une crise, hein, une crise justement qui ne dit pas son nom. Alors, finalement, ça veut dire que cette difficulté que nous endurons, nous qui sommes les consommateurs, ce n'est pas demain que nous sortirons alors de cette difficulté.
Oui, c'est un réel problème. C'est pas pour le Togo, c'est pas pour le Bénin qui entend mis en place la CEB, qui est en train d'être dissoute, si on peut le dire. Mais c'est toute l'Afrique. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance de participer à une rencontre où on disait que 80% de l'Afrique est dans le noir à l'époque. Ça veut dire que en termes de couverture en matière d'énergie, d'électricité, et Olivier le disait, c'est le nerf même du développement. Les ateliers tournent, les usines tournent, les ménages, les écoles, les hôpitaux, tout fonctionne à l'énergie. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique doit faire cet effort, et donc, investir dans l'énergie, c'est beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a plusieurs sources d'énergie, et avec les... Et aujourd'hui, la lutte pour la protection de l'environnement, on est en train d'opter vers de nouvelles formes d'énergie dont le solaire, et le Togo a fait le choix cette énergie-là avec la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest donc, qui est installée ici à Blita, qui va être agrandie. Et des efforts sont faits. Aujourd'hui, je pense que 40% au moins du territoire togolais donc couvert en termes d'énergie. Et il y a quelques jours, notre ministre de l'énergie était à Niamey,
au Niger,
où il y a une rencontre entre le Togo, le Tchad et les trois pays de l'AES. Et les rumeurs avaient couru que le Togo était en train d'intégrer l'AES. Non, il n'en était rien. C'était justement pour échanger sur un projet lié à l'énergie et aux hydrocarbures, justement, pour couvrir au moins 250 millions, pour pouvoir satisfaire les besoins de 250 millions d'habitants dans notre sous-région. C'est un projet d'envergure. Nos pays ont besoin de financement. Il y a la Banque africaine de développement qui travaille avec ces cinq pays-là sur ce projet. Et donc, c'est de gros investissements. Et pendant longtemps, l'Afrique n'a pas eu accès à ces énergies-là. C'est l'Occident qui vient installer. Il y a eu les barrages qui n'ont pas trop prospéré. Après, c'est des tribunes qui roulent avec de l'énergie fossile, comme on dit, le gaz, le pétrole et tout cela. Aujourd'hui, on va vers les énergies propres, comme on dit. Et donc, nos pays, en tout cas, essaient de faire de leur mieux et ils savent qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Tout tourne autour de l'énergie. Même la digitalisation dont on parle, s'il n'y a pas d'énergie dans les localités, on ne peut pas couvrir. Tout, tout. Vous avez vu comment l'électrification, les grands projets comme le projet CISO, comme le dernier projet qui permet de donner de l'électricité au pays par mois, là, Tinga, ont permis à des villages reculés, donc des gens, de démarrer des activités. Et donc, c'est dire l'importance de l'énergie. Maintenant, nous sommes tous d'accord que ce n'est pas la société parce que la plus belle fille ne peut donner ce qu'elle a, mais là c'était un petit problème de communication. C'est vrai qu'elle communique sur certains médias, peut-être qu'elle devrait utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux ou même les SMS qu'on envoie systématiquement.
Mais même sur le coup alors de ce délestage, on l'attendait maintenant beaucoup avant que quand même que le vendredi dernier la CET ne donne ses explications.
Oui, en fait, nous on arrive à dire certaines choses, mais quand vous êtes DG de la CET, un responsable, vous n'avez pas envie de dire que ben, c'est l'État qui n'a pas les moyens.
Oui, mais justement,
donc, vous voyez, vous ne pouvez pas le dire. L'État seul. Vous savez, le Togo et le Bénin ont eu beaucoup de difficultés avec le Nigeria. Vous payez, le Nigeria lui-même n'a même pas assez d'électricité. Voilà. Oui, les gens se plaignent parce qu'ils ne couvrent même pas les besoins du pays, mais se permettent de vendre. Le Ghana aussi vend alors que le Ghana a des problèmes d'électricité.
Oui, mais comme je disais, c'est toute
l'Afrique en fait qui est dans
le
noir.
Oui, sur ce plan, est-ce que pour ce que la société nous a dit concernant alors les travaux de maintenance qui se font sur les lignes, mais attends, on a pris du temps avant de venir alors nous dire cela, or on pourra nous le dire très tôt pour que du moins on sache également ce qui se passe.
Oui, bon, la CET communique, mais elle choisit quelques médias, parfois l'information ne passe pas, sinon elle prend soin de communiquer, sauf que je crois qu'elle le fait comme une formalité. Elle ne cherche pas à toucher un maximum. Normalement, tous les abonnés ont des contacts chez eux. On pourrait leur envoyer des SMS, pourquoi pas, et leur dire, au lieu d'envoyer un communiqué sur 3 ou 4 radios pour croire que tous les clients sont au courant, on pourrait directement joindre les clients et les informer qu'il y aura ce problème-là, ne serait-ce que pour sauver les appareils. Quand vous êtes prévenu qu'il y aura coupure, vous pouvez débrancher un certain nombre de matériel et puis éviter.
Voilà. Merci beaucoup. Oui, Olivier, rapidement.
Non, mais moi, je voulais peut-être relever que, la CET, c'est une entreprise. Une entreprise qui fait des bénéfices. Deux, c'est que la CET signe des contrats.
Qui doit faire des bénéfices
En tant que client, je ne me pose pas cette question. D'accord. J'ai une entreprise avec qui j'ai signé un contrat. Et cette entreprise ne m'a pas dit que c'est l'État qui est responsable et que en cas de difficulté, de me tourner vers l'État. C'est comme une entreprise privée. Même si la société n'a pas le statut d'entreprise privée, elle fonctionne comme une entreprise. Donc, lorsque j'ai une entreprise privée qui doit me faire des prestations et qu'elle n'arrive pas à faire cette prestation ou à répondre donc à ses engagements, qu'on ne me demande pas de me tourner vers l'État. Parce que, étant donné que cette entreprise a signé un contrat avec moi, elle était sûre, elle s'était engagée à me fournir ou à remplir les clauses de ce contrat. Donc, ça, lorsqu'elle ne le fait pas, ça devient une violation à titre, contractuel. De ce qu'elle devrait me fournir, elle ne me fournit pas. Donc, oui, nous savons que l'État a la responsabilité donc d'assurer l'approvisionnement en énergie du pays. Et oui, nous savons que l'État donc n'arrive pas à faire face à ses prérogatives. Mais moi, je n'ai pas pour partenaire en affaires l'État. J'ai la CET comme partenaire.
Voilà, c'est la CET
donc,
que vous avez
lorsque la CET est défaillante, que personne ne me demande de me tourner vers l'État. Je dis encore qu'on sait que l'État ne joue pas.
L'État, c'est qui?
Oui, l'État, c'est qui d'ailleurs?
D'accord.
Donc, la CET est défaillante. Disons-le. La CET, elle est défaillante. Vous savez que l'État peut approvisionner notre pays et confier la distribution de l'énergie à une entreprise privée. Ça a été fait. Et lorsque ça arrive, qu'on ne nous demande pas si cette entreprise est défaillante ou si l'énergie ne me parvient pas, de me tourner vers l'État. Maintenant, c'est cette entreprise qui doit se tourner vers l'État parce que elle est mandatée par cet État. Donc, si l'État ne réagit pas, c'est à la société de forcer l'État à lui donner les produits pour moi en tant que client. Donc, nous sommes dans une relation privée de contractuelle. Donc, qu'on ne me dise pas que en me demandant de me tourner vers l'État, on m'emmène vers sur un terrain politique. Que moi, je n'ai pas signé un contrat politique. D'accord. J'ai signé un contrat de marché. D'accord. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, je vais proposer. La CT est dépassée par la demande. D'accord. Vous voyez, il y a tellement de personnes qui demandent de l'énergie et qui n'en trouvent pas. Mais c'est toute une richesse pour le pays. Qu'on libéralise ce secteur. Disons que ceux qui sont des privés, lorsqu'ils construisent, qu'ils mettent les panneaux solaires qui se tournent vers les énergies renouvelables. On peut les imposer même dans les clauses de construction. Comme ça, ça va libérer la société qui peut fournir aux industries, aux grosses industries et aux grosses industries et à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, on se tourne vers les panneaux solaires, vers l'énergie solaire, mais il faut avoir une politique pour amener les citoyens. Ça ne coûte plus cher, hein. Avant, c'était à des millions, mais aujourd'hui, vous pouvez trouver des panneaux solaires qui sont abordables. Alors, encourager les Togolais à se tourner vers les énergies solaires afin de permettre à la société d'avoir suffisamment d'énergie d'accord. pour distribuer à ceux qui en ont plus.
D'accord. Non, non, mais en fait, ce qu'Olivier dit, ça se fait. Il y a des privés qui ont des petits panneaux solaires.
Non, je dis que ça soit une politique.
Non, j'arrive. Ce que je voulais dire, en fait, ce que Thierry disait, c'est la vérité. La société ne fait pas réellement des bénéfices. C'est comme la TDE, par exemple. La TDE, par exemple. Roule à perte.
Non, mais moi.
Non, j'excuse.
Je sais ça, mais moi, en tant que client, ce n'est pas ma préoccupation.
C'est des secteurs que l'État est obligé de contrôler parce que la vie des populations dépend. Tout de suite, si l'eau coûte cher, les gens. Si demain, la société peut bien augmenter le prix du kilowatt et avoir de l'argent pour faire les extensions et tout ça. Il y a des riches qui sont prêts à dire, moi je veux de l'électricité, augmenter le prix, moi je veux que l'électricité soit disponible, je vais payer. Mais il y a une grande majorité de pauvres qui ne pourront pas payer leurs factures à la fin du mois. En fait, c'est ça la difficulté. Donc, l'État fait en sorte que le prix reste à un niveau où tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont les branchements, puissent payer. Et donc, on parlait de ce projet Tinga. Les gens n'arrivent, n'ont même pas l'argent dans les milieux ruraux pour tirer de l'électricité. L'État vous amène ça aujourd'hui et vous payez chaque mois jusqu'à payer le branchement. Ça dit qu'il y a des difficultés. Maintenant, la société pouvait faire le choix. OK, on augmente le prix du kilowatt et on a les moyens pour satisfaire tout le monde. C'est jouable. Mais l'État, s'il le fait, mais tout de suite, les populations vont se soulever. Mais dans quel pays on vit? L'électricité coûte
cher. Finalement, on reste dans le cercle.
C'est pour dire.
Il faut faire le choix entre avoir les
électriques. Il y a des financements. Il y a des financements même pour Lomé, l'extension dans Lomé. Il y a l'Union Européenne, il y a des banques qui ont...
Il y a même le financement.
Mais on ne sait pas pourquoi le projet traîne, parce que ça fait plus de 2 ans.
D'accord. Il y a ce financement. Merci beaucoup.
Moi, je voulais ajouter que ceci, en fait, l'électricité, l'eau, c'est l'État. Ça vient de l'État. Donc, ce que la CET est en train de faire, on appelle ça service public à caractère industriel commercial. Donc, la CET ne fait pas ça pour avoir nécessairement de l'argent. En fait, elle est guidée par l'État. C'est un service public, mais à caractère industriel et commercial.
Oui, juste à ajouter par rapport à ce que la proposition d'Olivier, je crois il faut vraiment l'étudier parce que on serait dans la même situation aujourd'hui par rapport à l'eau si on n'avait pas les forages. Parce que sans les forages, il y aura bon nombre de quartiers aujourd'hui qui n'auront pas d'eau. Ça, c'est clair. Alors que là où même il y a les installations de la TDE, c'est difficilement que les gens sont desservis. Donc voilà tout le problème. C'est-à-dire que l'investissement ne suit pas. Puisque ces entreprises-là, reconnaissons-le, tournent majoritairement à perte. Parce que ils ne revendent pas le produit, l'eau et l'électricité au prix de la production. Parce que l'État subventionne, puisque c'est des besoins vitaux. Si vous l'État, donc il faut chercher les moyens.
Il faut chercher les moyens. Alors, chers confrères, nous allons observer une pause et nous revenons juste après.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Nous abordons un autre sujet. Alors, ce sujet que nous allons aborder, c'est le sujet de la situation de Sotoboa. Thierry, c'est vrai que depuis hier, je lisais même d'ailleurs un article sur votre site gapola.tg. Le titre de cet article, c'est « Sotoboa, un individu sur le point de commettre un autre meurtre arrêté et aux mains de la police », ce qui veut dire qu'il y a de l'évolution dans cette affaire.
Oui, tout à fait. Vous savez que depuis samedi où il y a eu ces échauffourées, je crois que ça a produit un déclic et la population s'est résolue de même que les autorités à mettre fin à ce qui se passe dans cette préfecture. Je crois qu'il y a 300 kilomètres de Lomé. Alors donc depuis mercredi, si je ne me trompe, ou jeudi, la main a été mise sur un individu. Nous avons fait un article là-dessus. C'est vrai qu'il vient d'être arrêté, donc il est présumé, il est présumé auteur de ces crimes-là, puisque aujourd'hui on parle au moins de 6 morts. Et cet individu qui a été arrêté par la population, et le mode opératoire de ces différents crimes-là n'a pas changé. On suit ces femmes et hommes-là dans les champs ou encore qui vont chercher de l'eau, et quand on se rend compte que le milieu, il n'y a plus personne à part la personne qui est partie au champ pour chercher les fagots ou encore pour voir ce qui se passe dans son champ ou alors pour aller chercher de l'eau, on l'enlève et puis après c'est le corps qu'on retrouve sans vie. Donc il y avait un vieillard qui se retrouvait dans cette situation, et heureusement ou malheureusement, il était suivi par l'un de ceux qui commettent ces crimes-là. Et malheur pour cet individu-là, c'est que il y avait aussi des jeunes qui étaient sur la trace de ce vieillard-là, parce que à un moment donné, ils ont senti que le vieillard était suivi, parce que depuis que ça a commencé, il y a une communication faite par les autorités demandant à la population de ne plus se déplacer dans les milieux reculés seuls. Au moins, il faut être deux ou trois. Comme ça, ça va dissuader ceux qui commettent ces crimes-là. Donc, l'homme ou l'individu arrêté voulait passer encore à l'acte pour assassiner le vieillard en question. Et heureusement, les jeunes se sont saisis de lui et on l'a arrêté avec au moins 5 coupes-coupes et 2 couteaux, et il a également une torche, puisque ces personnes-là retrouvées mortes, après on remarque qu'ils ont des blessures sur leur corps, et souvent ils sont atteints par au niveau de la tempe également. Et donc voilà un peu
la
situation. Donc actuellement, la personne a arrêté, je le disais, c'est un présumé coupable, est aux mains de la police, et on ose croire que la police judiciaire va rapidement travailler sur cette affaire-là pour que ceux qui font partie donc de ce gang-là, de ce réseau-là, soient rapidement démantelés, et pour qu'on puisse connaître aussi les auteurs de ces, les commanditaires, si je peux m'exprimer ainsi, de ces crimes-là. Vous n'êtes pas sans savoir que un cas similaire de ces actes-là s'était posé ici à Lomé, je crois, en 2012 ou 2013, voilà. et on a arrêté des gens, on a vu comment ça s'est passé. D'accord. Après, donc c'est un peu ça qui arrive, surtout que nous savons que au nord de notre pays il y a cette situation de terrorisme, donc on ne sait pas trop dans quel contexte se situe ce qui arrive, se passe à Sotoboa. Mais tout le monde est aujourd'hui éveillé, puisque les gens sont sensibilisés, et ce qui
pire encore chose là, c'est que l'individu arrêté, selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, n'est pas du milieu. Donc il y a un problème. On attend la justice.
On attend la police judiciaire.
Voilà.
Olivier, on dirait quand même que c'est un élément très très important pour poursuivre même d'ailleurs l'enquête et aussi donner les clarifications aux populations.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire dans un milieu où les gens sont assassinés, donc tous les jours et n'importe comment, on va avoir de la psychose qui s'installe. Donc, et je crois que c'est un premier pas, un bon pas. Les populations sont les premières, on l'a toujours dit, à assurer leur propre sécurité. Et l'État, les forces de l'ordre de sécurité peuvent venir en appui ou en appui, mais c'est à nous-mêmes donc d'assurer notre propre sécurité. C'est ce qu'elles ont fait. Certes, l'origine des échauffourées et des trous que nous avons connus la dernière fois donc était liée d'abord donc à la demande de ces populations d'explication auprès donc de l'autorité représentant l'État. Et aussi auprès des forces de l'ordre qui devraient normalement assurer la sécurité, la tranquillité donc publique, et ce qui n'a pas été fait. Donc si aujourd'hui on apprend que quelqu'un a été arrêté, et Thierry l'a relevé, il n'est que présumé donc et coupable. Et il faut mener les enquêtes d'abord avant de savoir si réellement, parce que dans ce genre de choses, tous les montages sont possibles.
D'accord.
Tous les montages sont possibles. Donc il faut faire très attention et il faut arriver donc à démontrer la culpabilité de cette personne, parce que on le dit, n'a pas été arrêté en flagrant délit, c'est-à-dire en train de commettre l'acte, mais on comme sur on l'a point. Dit, il est sur le point, mais sur le point, il faut arriver donc à vraiment
étudier le cas
et savoir que ce n'est pas aussi donc un montage d'un groupe pour vraiment plonger des gens. Donc il faut faire très attention.
Voilà, il faut faire très attention justement. Firmin, c'est la question même d'ailleurs de l'insécurité dans nos villages, dans nos localités quand même qui se pose. Hein.
Non, moi je voudrais pas qu'on dise que c'est des situations récurrentes, que nous vivons une situation d'insécurité au Togo. Parce que le dire ainsi serait de créer une certaine psychose dans l'esprit des gens. Je pense que je suppose et je voudrais bien croire que c'est un fait isolé que nous sommes en train de vivre et de subir. Mais la question de savoir, on sait qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Mais les autorités sécuritaires peuvent prendre au sérieux ce problème pour que cela ne survienne plus à l'avenir.
D'accord.
C'est mon souhait le plus important. Parce que on ne faut pas dire aux gens que c'est insécurité, c'est des choses qui arrivent. Cela est arrivé en 2012, je dirais, évoqué tout à l'heure. Mais ça vient encore d'arriver. Mais il faut comprendre la situation en Balkan. Le Togo, c'est un petit rectangle. Assurer sa sécurité, moi je pense pas que c'est ça qui dépend.
D'accord. Germain, oui, aujourd'hui beaucoup de gens pensent que il est très important que le ministère de la sécurité se prononce sur le sujet et arrive à rassurer aussi les populations de Sotoboa.
Oui, c'est vrai que la sécurité doit rassurer la population. Maintenant, communiquer, c'est un peu plus délicat. Il faut avoir des éléments pour communiquer. Et si la police ou la gendarmerie n'a pas avancé dans les enquêtes, ça va être difficile de communiquer. Maintenant, on sent que les populations également prennent les choses en main, donc s'investissent dans la recherche des coupables. C'est une chose à saluer. Je pense que la police et la gendarmerie ont toujours sollicité l'appui de la population, surtout en termes d'information, pour pouvoir avancer. Et là, on parle d'un individu qui n'est pas connu dans la localité. Et généralement aussi, la police demande aussi d'informer quand il y a de nouvelles personnes qui viennent dans un endroit qui visiblement n'ont pas un travail concret. C'est pas lui créer des problèmes, mais c'est d'attirer l'attention pour qu'on regarde si autour de lui on fait des vérifications, s'il n'y a rien. Il est libre de vivre et de ne rien faire de ses journées, mais
d'accord,
c'est un peu suspect généralement.
D'accord.
Et donc, il faut que les populations contribuent. Vous savez, en Occident, On parle de ces vieilles-là qui sont à leur balcon et ou à l'intérieur et qui regardent tout et qui alertent la police rapidement.
Merci beaucoup, Germain.
La population.
Oui, mais merci beaucoup, Germain. Je voudrais qu'on parle, hein, il nous reste pratiquement 4 minutes, je voudrais qu'on parle de la CEDEAO, qu'on discute un tout petit peu alors de la CEDEAO. On sait que dans la semaine, il y a l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, je veux bien parler alors du général Yakubu Gowon, qui s'est prononcé sur la situation de la CEDEAO et a demandé même d'ailleurs qu'on lève les sanctions. Et demain, samedi déjà, il y aura une rencontre de la CEDEAO et sûrement que la rencontre va plancher alors sur cette question de levée des sanctions. Olivier, finalement, pour l'apaisement et pour surtout régler un certain nombre de soucis au niveau de la CEDEAO, il est très important de lever les sanctions.
Oui, mais est-ce que ça suffit au retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO? Je suis un peu dubitatif, ou en tout cas, je ne crois pas trop. De toutes les façons, le reproche qu'elle fait à la CEDEAO, c'est d'avoir abandonné donc ses premiers chantiers, les chantiers d'intégration régionale, et puis donc de la création d'une CEDEAO des peuples, de libre circulation des biens et des personnes, pour se transformer en une CEDEAO totalement politique et politisée, qui on a l'impression, puisque les citoyens ont l'impression qui se laisse utiliser et manipuler par l'extérieur, donc qui impose un agenda étranger à la sous-région ou à la communauté. Donc voilà les reproches qu'on fait à la CEDEAO. Donc la CEDEAO va pouvoir donc se remettre en question et renaître de ses cendres. La question est là, mais avec le départ des pays de l'AOS, je crois que c'est un coup très dur à la CEDEAO et il est difficile de les ramener au sein donc de ce géant-là. Yakubu Gowon fait l'effort et c'est pourquoi Harakiri a titré « Est-ce que le soldat, donc Yakubu Gowon, peut sauver les meubles ?» Mais le chantier paraît très difficile, voire impossible à faire.
D'accord. Firmin, est-ce que c'est vrai que quand on prend ce chantier-là, ce chantier demeure vraiment difficile à faire, que du moins on ne peut pas s'entendre sur un certain nombre de choses pour la paix dans la maison CEDEAO?
Oui, on peut s'entendre sur un certain nombre de choses. Sauf que nous avons raté le minimum depuis le début.
Et c'est quoi ce minimum?
Le minimum, c'est quoi? Vous savez, quand on voit un peu l'Union européenne, regardez un peu la source de l'Union européenne. Elle a été créée dans les années 50, mais en 92, c'était la communauté économique européenne. En 92, elle est devenue l'Union européenne. C'est-à-dire, elle a évolué avec le temps. Et ce qui les a aidés fondamentalement, c'est parce qu'ils ont réussi à construire des États forts et des nations. Donc, il n'y a pas tellement de clivage à l'interne. C'est ce qui fait qu'au niveau de la CEDEAO, nous n'arrivons toujours pas à réussir. Parce que chacun garde son petit intérêt. Dans nos États, il y a tellement de divergences. Mais c'est-à-dire, je parle de divergences, de clivage. On n'arrive pas à devenir des nations.
Mais parmi les organisations de la sous-région, la CEDEAO est la mieux.
On a fait des efforts. La CEDEAO a fait des efforts. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? Pourquoi au niveau de nos frontières, ça ne marche toujours pas? Mais ceux qui traversent l'Union européenne ne vous raconteront pas assez de tracasserie au niveau des douanes européennes. Mais ici, pourquoi ça ne marche toujours pas? C'est parce qu'on n'arrive toujours pas à devenir des nations. On n'arrive pas à construire des nations, on n'arrive pas à construire des États solides. C'est pour cela que ça, on a toujours ces problèmes-là. Alors, la meilleure des choses que moi, je voudrais proposer, c'est qu'on arrive à s'adapter avec le temps. C'est-à-dire, il faut réinventer la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO s'adapte au contexte moderne, au contexte international. C'est-à-dire que la CEDEAO ne reste toujours pas dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Que la CEDEAO sache que le monde a évolué et qu'elle s'y adapte. Et qu'elle s'y adapte. Parce que si elle ne s'y adapte pas, elle va toujours avoir ces fissures-là, ces petites fractions-là. Ça ne marchera pas. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, ceux-là qui sont en train de créer l'AES, c'est la même situation qu'ils vivront. C'est-à-dire, l'AES, ça n'évoluera pas. C'est la même situation. Ce que la CEDEAO est en train de vivre aujourd'hui, c'est la même situation que l'AES vivra. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit, si vous n'arrivez pas à prendre soin des petites choses, comment, ou si vous n'arrivez pas à être fidèle pour les petites choses, comment le serez-vous dans les grandes?
D'accord.
C'est la même chose.
D'accord. C'est la même chose. Et Thierry, c'est vrai, quand on voit des reproches qui sont faits à la CEDEAO, on comprend ou on note quand même que, allez, il y a le fait que la CEDEAO n'arrive pas à sanctionner un certain nombre de coups d'État comme des coups d'État constitutionnels dans ces pays. Mais quand il s'agit alors des coups d'État militaires, on y va rapidement alors pour les sanctions. Et est-ce que là aussi, les reproches ne sont pas aussi avérés.
Oui, ces reproches-là sont fondés. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a le plus fragilisé la CEDEAO. Ces chefs d'État-là qui, arrivés en fin de mandat, font des alchimies, passent par des alchimies pour se maintenir au pouvoir. C'est ça. Regardez ce que Macky Sall a fait dernièrement. Alors que dans cette affaire du Burkina, du Niger, et de la Guinée, et du Mali. C'est eux qui étaient devant, qui disaient non, que c'est pas possible. Mais regardez ce qu'il a fait. Finalement, on se demande qu'est-ce qui ne va pas.
Non, mais dans son discours hier, il est revenu.
Non, mais il a déjà foutu le bordel. Là, il cherche à se racheter. Mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà commis. Peu importe ce qui fera encore de bien, le monsieur, tout ce temps-là qu'il a passé à la tête du Sénégal, et il a participé, ou du moins, il a permis à ce pays de se développer, mais les gens ne retiendront plus cela. C'est son dernier acte-là, pratiquement en fin de mandat, que les gens vont retenir. Donc, nous devons faire extrêmement attention. C'est en cela que je rejoins un peu Firmin, c'est que la CEDEAO est restée toujours dans ses tests fondamentaux. Ils n'ont pas su faire opérer des réformes pour s'adapter aux nouvelles réalités du monde. C'est là le problème de la CEDEAO.
Germain, est-ce que déjà la rencontre de demain avec les chefs d'État et pour la levée alors de sanctions, si possible bien évidemment, éventuellement, et alors est-ce que cela ne peut pas régler un problème?
Oui, ça va régler un problème. Mais après, l'AES ne sera pas dissoute parce qu'elle a été créée à l'origine, pas pour sortir de la CEDEAO, mais pour régler un certain nombre de problèmes qui sont propres à ces trois pays. Maintenant, il faut dire que ces militaires aussi ont fait monter les entières pour que la CEDEAO les laisse tranquilles gérer leur transition. Donc voilà. Et le message est passé. Et quand le président du Togo, qui est le médiateur désigné pratiquement par ces trois pays et désigné également par la CEDEAO, est allé rencontrer Ouattara, qui est présentée comme l'aile la plus dure et celle qui approche des Occidentaux. Et ça a été clair. Le chef de l'État a dit qu'il pense qu'il y a une solution qui sera prise dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, ça va se faire après. Et je pense que ces trois pays gagneraient à revenir au sein de la CEDEAO. Ça peut prendre un peu de temps, mais je crois qu'à pas du moment, on ne va pas les dérangé avec la transition et un certain nombre de choses, et que visiblement ils n'ont pas envie de lâcher le pouvoir actuel dans les jeux qui viennent.
Ont capté.
Donc ils reprendront progressivement leur place, à mon avis. Et ici, il faut quand même accuser certains dirigeants de la CEDEAO qui ont suivi aveuglément les pays occidentaux, la France, les États-Unis, qui ont dit à la CEDEAO de sanctionner et ils vont suivre. Et ces pays-là n'ont jamais sanctionné les mêmes pays. Ils ont maintenu leur coopération, ils exploitent
ils
toujours
même renforcé
là-bas. Et ils ont
mis, est-ce que ça veut dire que la CEDEAO
est les Africains
la CEDEAO a été piégée.
Ils ont renforcé leur coopération.
Ils travaillent normalement avec ces pays. Mais ils disent aux pays frères de ce pays de ne pas collaborer. Ils ont créé un bordel inimaginable. Heureusement qu'il y a des personnalités qui ont eu la tête froide et la sagesse, comme le président togolais, qui ont su dès le départ donc prendre une position qui aujourd'hui peut aider à régler.
Merci beaucoup. Je pense que nous allons en arrêter là, puisqu'il est déjà midi, passé de déjà 5 minutes. Donc nous allons en arrêter là pour le débat. Nous allons maintenant donner la parole à nos chers fidèles auditeurs, puisque ils ont aussi le droit à la parole. Nous allons leur donner la parole, mais bien avant, nous observons une pause.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75 22 21 33 74 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez facilement réagir sur des sujets débattus au club de la presse d'aujourd'hui. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais bien, et vous?
Ça va aussi. Le nom, c'est?
C'est Basile. Hein?
Basile.
Oui, oui.
Allez-y.
Ah, je vais prier nous, Togolais, qu'on n'a qu'à apprendre à nous occuper de nous, de nous. Le Sénégal s'en sortira sans séquelles. Je souhaiterais que cela soit plutôt qu'on parle de nous comme ça. Nous, on sera toujours dans le statu quo là. Le Sénégal s'en sortira. Bien sûr, ils sont trois, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ne veulent rien attendre, non. Maintenant, les deux, Macky Sall vient de libérer quelques prisonniers. Ouattara a fait pareil. Voilà. Donc, il ne faut pas que quand nous, on vient comme ça sur les médias, on parle d'autres pays alors que nous sommes assis dans le caca. Merci à vous.
Merci, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, le nom, c'est?
C'est Évangéliste Senghor.
Évangéliste Senghor. Allez-y.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Je salue le plateau, là. Oui, bonjour. Bon, vous savez, un de vos confrères vient de dire tout à l'heure que Macky Sall a déjà gâté les choses. La fin de toute chose est meilleure que le commencement, hein. Les pères journalistes. La fin de toute chose est mieux que le commencement. C'est, je voudrais dire tout à l'heure aussi que dans la vie, quand tu gères quelque chose, je voudrais parler des chefs d'État à Pékin, que leur fin soit même que le commencement. Bon, vous disiez tout à l'heure que demain, il y a une rencontre là pour régler les problèmes, bien bon. Non, rien ne va jamais changer. C'est Dieu qui est en train d'ouvrir les yeux à l'Afrique, hein, que l'Afrique se réveille. Il y a M. Tchamé, IB, plus le Malien. Et ils ont déjà fait ce que Dieu leur a dit de faire. Rien ne changera jamais, je vous dis ça. À travers cela, il y a des pays qui vont sortir du code de la PDAO. Vous voyez. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire des analyses dans de bonnes conditions. Il faut voir les choses claires. Et monsieur, l'ancien président Gowon, c'est vrai, il a son droit de parler, mais il est venu tardivement. Vous voyez, non? Il est venu tardivement, rien ne va jamais changer. Que Dieu aide le Togo. Bon, pour le fond, pour le président Fonya Tsingé, il y a les deux qui ont changé, qui ont libéré les prisonniers. Il ne faut pas être un bon élève à rien. Laisser tes enfants mourir en prison ici. Non, il faut que la charité de l'homme commence par soi-même. Il faut qu'il libère les gens qui sont dans la prison. Ce n'est pas de son intérêt. Et que les gens vont l'applaudir. Dieu aussi va l'applaudir. Merci.
Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse à l'heure d'aujourd'hui. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le nom, c'est?
Monsieur Tchala.
Monsieur Tchala.
Je m'appelle de GTA.
De GTA, allez-y.
Je voulais savoir si l'inspecteur des impôts est encore là.
Non, il est déjà parti. Mais oui, allô, monsieur Tchala, oui, il est déjà parti. Puisqu'il a un impératif.
J'avais une question là, j'ai voulu une précision, quoi.
Il a un impératif, il est déjà parti.
Ah, il n'est pas là.
Non, il est déjà parti, puisqu'il a un impératif.
Okay. Oui. Okay, merci.
Merci beaucoup. Alors, 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au sujet alors débattu ici au club de la presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Oui,
bonjour, le plateau.
Oui, Didier, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, mais moi, ce que je... On parle souvent des autres pays, mais on ne parle jamais du Togo. Le Togo fait partie des pays qui ont le plus fragilisé la CEDEAO. Je pense que mon ami Kompoli et son second m'ont démenti. Parce que regarde, tous les mauvais coups là de la CEDEAO sont passés par le Togo. La modification en fait, des constitutions, les troisièmes mandats, les arrestations, les coups d'État. Regardez quand en 2005, la mort du président, il y a demain. Quelqu'un vient, il prend le pouvoir, les militaires viennent, substituer une autre personne à celui qui devait remplacer le président. La CEDEAO n'a rien dit. C'est d'ici que passent tous les mauvais coups. Donc, moi, je pense que le Togo est en train de faire une mauvaise, donner un mauvais exemple. Parce que des gens qui sont en train de partir, moi, je pense qu'ils sont en train de faire du chantage. Parce que l'AES qui sont en train de créer, là, il y aura des lois. Donc, quand ils auront des règlements, et lorsque quelqu'un va pas. Allô?
Oui, oui, je vous écoute, c'est dit.
Et lorsque quelqu'un, un des membres ne va pas appliquer ne va pas appliquer les règlements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les sanctionner, non? Donc, moi, je pense que c'est en train du chantage. En parlant de ce qui se passe au Sénégal, parce qu'ils sont en face, le président Sall est en face d'un brave peuple qui sait résister, qui ne succombe pas à la tentation, qui est prêt à tout pour sauvegarder sa démocratie. Comprenez, la Cour constitutionnelle du Sénégal est celui du Togo. Il n'y a même pas match. S'il y a, quelle observation pour lui, et puis
vous voulez parler
quelle
de Firmin?
Observation ils ont à comprendre? Quelle font-ils de la Cour constitutionnelle du Sénégal sur conduit Togo? Merci.
Merci Didier. 22-21-33-114, allô? 22-21-33-114, 91-36-63-75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. 22-21-33-114, allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame ici.
Voilà, vous avez déjà pris de deux choses qu'il a dit, non? Qu'il a dit la CEDEAO et puis quoi, je ne sais pas. Moi, j'attends que les gens réagissent pour suivre, parce que je suis fatiguée de tout ça, tous ces débats depuis la nuit des temps, là. Alors qu'on a des lois qui régissent la République et qui nous privent de toute cette torture, hein? On a des lois qui règlent la République, qui nous évitent de débattre, de nous ruiner en téléphone, de stresser et tout ça. Bon, vous avez parlé, je sais pas, quand j'entends les gens appeler pour dire que c'est Dieu qui a demandé à ce qu'on fasse les coups d'État, qu'on déstabilise les pays, que 2005 se passe dans un pays, dans une République, moi j'en suis sidérée. C'est Dieu qui a demandé ça.
Mais personne ne l'a dit,
madame Messi. La Cour constitutionnelle qui se trouve dans tous les pays africains, là. Il n'y en a pas une seule dedans qui soit sérieuse. Il n'y a rien dedans. Hein? Tous les coups foirés qu'on nous fait depuis l'indépendance, les votes fondés, tout ça là, non. Et puis l'AES, les gens là, ils déstabilisent. Hein, c'est les mêmes personnes qui canardent les manifestants, non, dans la population. C'est les mêmes personnes-là qui maintiennent le dictateur. Et maintenant, 30 ans après, 20 ans après, ils leur font des coups d'État et puis vous l'acclamez. Ça déstabilise, ça ruine nos pays. Et Gohan, qui est là tapis dans l'ombre, qui a fait la même chose, qui réagit aujourd'hui pour nous dire de les ménager. Hein? Alors que tout cela, c'est des crimes imprescriptibles, oui.
Merci.
Les gens doivent répondre.
Merci
tout
beaucoup,
ça, là, ils nous fatiguent trop en Afrique.
D'accord, merci tout beaucoup, madame.
Comment on dit ça? Comment je l'appelle même? La haute trahison, de part en part.
D'accord.
Tous ces gens-là. Merci.
Merci beaucoup, madame ici. 22-21-33-74, 91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. 22-21-33-74. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Voilà.
Le nom, c'est...
Oui,
Mauto, allez-y.
Moi, je vous invite, vous les journalistes, à parler aussi un peu du Togo. Parce que nous parlons trop des autres. Si la CEDEAO est fragilisée au Togo, c'est le Togo qui est le premier responsable. Vous n'en parlez pas. Moi, je dis ça toujours.
Mais décidément, oui. Mauto.
Oui, monsieur.
Oui, mais vous savez, le Togo n'a pas que des sujets politiques. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Il y a la sûreté, il y a beaucoup de choses, bien évidemment.
Pardon, sur le cas de la CEDEAO, vous parlez de ça. Plus que les autorités togolaises sachent qu'ils doivent aussi changer les choses.
Oui, mais c'est votre avis. Dites ce que vous pensez. C'est l'essentiel.
Le Togo a beaucoup fragilisé la CEDEAO. Il faut que le Togo aussi avance. Nous aimons notre pays. Merci, bonne émission.
Allez, bonne journée à toi. 22-21-33-114, 91-36-63-75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. Allô?
Allô? Oui, ça disait qu'il revient.
Oui, disait, allez-y.
C'est pour appuyer celui qui vient de partir là. Le rôle de la déstabilisation du Togo, de la CEDEAO, il faut qu'on nous parle de ça aussi. Comment est-ce que le Togo a déstabilisé la CEDEAO? La diplomatie que le président est en train de faire là, il est en train de préparer la c'est-à-dire, comme il y a des contents de la CEDEAO, on a bientôt
il y aura bientôt les élections, il y aura un troisième mandat. C'est ce qu'il est en train de préparer là. Donc, on n'est pas dupes. Il faut que nous parlions du Togo. Quel est le rôle du Togo dans la, dans la déstabilisation actuelle de la CEDEAO? J'ai envoyé un message à salut fraternel à M. Nyamavo et puis à, comment l'appelle-t-on, celui qui a la hack maintenant, mon ami qui a la hack maintenant.
SAS, vous l'avez dit?
Allô?
SAS, vous
l'avez
dit?
Non, le second de SAS.
Tchanyao?
Tchanyao, okay, c'est à l'écoute, je l'envoie, bonjour.
D'accord, ok, allez.
Merci.
Bonne journée Didier. 22-21-33-114-91-36-63-75. Nous avons encore pratiquement deux minutes pour recevoir un dernier auditeur. 22-21-33-114. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va bien.
D'accord, le nom c'est...
Allô, vous m'écoutez?
Oui, nous vous écoutons.
Allô?
Votre nom c'est...
Allô?
On vous écoute, allô?
Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. 22-21-33-114. On reçoit un autre auditeur. 22-21-33-114. 91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bien, bien,
ça va. Le nom, c'est...
J'appelle du Haoussin.
Votre nom, pardon?
Claude.
Claude.
Oui.
De Haoussin.
Haoussin.
D'accord. Claude, il semble que la radio qui est... plus proche de vous, vous avez monté son volume, diminué un peu le volume.
Ok.
D'accord, oui, c'est bon, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y maintenant, c'est bon.
Allô?
Oui, c'est bon, allez-y.
C'est bon?
Oui, c'est bon, allez-y.
Oui, c'est juste pour demander quand le président de la République Paul Assimé allait en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a vu comment on a créé, on a construit à Dijon?
Pardon?
Allô?
Oui, votre question, je pense que d'accord, c'est pas destiné. C'est destiné plutôt au président de la République et sûrement que il sera à l'écoute. Hein. Alors, je pense que c'est le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce vendredi. On revient en plateau, chers confrères. Nous avons écouté les uns et les autres hein, se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Olivier, et quelle est votre réaction par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit?
Non, je crois que nous sommes tous d'accord que la CEDEAO vit une situation très difficile par rapport au coup d'État, au bouleversement. Donc, et il faut quand même que cette organisation se reprenne, d'accord? Bon, maintenant, on nous fait le procès que nous n'avons pas parlé du Togo, que c'est le Togo qui serait l'instigateur ou du moins qui donnerait le mauvais exemple et qui mettrait la CEDEAO en difficulté. Mais vous savez, les avis, les opinions donc ne peuvent pas donc être imposés à qui que ce soit, d'accord? Et le Togo instigateur, je ne vois pas forcément le rapport, mais bon, chacun a son opinion et sur le sujet, on ne peut pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit.
D'accord. Fémé?
Bon, je voudrais dire ceci. Qu'on ne trouve pas des alibis pour justifier les coups d'État. Qu'on ne dise pas que oui, c'est parce que la CEDEAO fait si, qu'on veut se maintenir au pouvoir. Les coups d'État sont à condamner. Que ceux qui ont fait des coups d'État remettent le pouvoir et qu'on organise des élections et qu'on remette le pouvoir au civil, c'est fini. On dit qu'on ne dise pas que c'est la CEDEAO qui a fait ci, c'est la CEDEAO qui a fait ça. La CEDEAO, c'est une organisation humaine. Elle sera toujours imparfaite. Elle va toujours évoluer avec le temps. Et t'as dit cette histoire-là que les poutistes brandissent en épinglant régulièrement la CEDEAO, c'est un faux problème. Il faut que ces poutistes-là laissent le pouvoir. Et mais la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que le chef de l'État togolais, il a soutenu en quelque sorte les poutistes, c'est-à-dire il les a accompagnés à un moment donné. Mais là, il faut qu'il arrive à leur dire la vérité. Parce que si on lui fait, lui, Fognassim, si on lui fait un coup d'État, maintenant, il ne va jamais accepter. Alors, s'il continue de les soutenir, c'est comme il serait en train de sacraliser le coup d'État.
Mais c'est pas une politique d'apaisement.
Oui, c'est une politique d'apaisement. Mais ça veut dire, Goïta, il fait déjà 4 ans au pouvoir, un mandat aux États-Unis, sans rendre compte à qui que ce soit. Alors qu'avant qu'il n'arrive, on parlait de corruption, on parlait du népotisme. Maintenant, il a dissous les institutions, plus rien ne fonctionne. On enferme les journalistes, on enferme la société civile, on enferme les politiciens. Personne ne dit rien. Maintenant, ce qui m'écœure, c'est qu'il y a des milliers de Togolais qui soutiennent ces poutistes. Alors que ce sont ces mêmes Togolais qui disent qu'au Togo, il y a corruption. Au Togo, les militaires prennent tout. Les militaires font tout. Alors que les militaires prennent tout ailleurs, ils applaudissent des deux mains. Les militaires emprisonnent les journalistes, ils applaudissent des deux mains. Les militaires emprisonnent les acteurs de la société civile ailleurs, ils applaudissent des deux mains. Par exemple, Zinaba, que moi je connais très bien, un gars du balai citoyen, lorsque je l'ai rencontré quand j'étais allé au Burkina Faso, un gars très brillant, on l'a emprisonné là. Les Togolais n'ont rien dit. Alors que nous avons des gens qui sont en prison aujourd'hui, que nous devons peut-être demander, ou nous pouvons contribuer à ce qu'on les libère. On ne voit pas ce genre de choses. Moi, je voudrais simplement dire, il faut que les Togolais, les Africains soient cohérents avec eux-mêmes. Les coups d'État sont à condamner. Du moment où nous condamnons ça ici au Togo, comme nous les avons continué de condamner le 5 février 2005, condamnons la même chose ailleurs. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui.
Voilà, c'est une règle de la nature. Alors, Thierry?
Oui, vous savez, la CEDEAO s'est mal prise dans cette crise-là parce que, quelque part, elle était le dernier rempart de la population face à ces militaires-là qui sont arrivés au pouvoir. Maintenant, il n'y a plus d'organisme de pression sur ces militaires-là pour que ils puissent organiser les élections. Donc, vous voyez que les gens sont là, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et personne ne peut plus rien dire. Et quand la population veut manifester, on leur impose une interdiction de manifestation.
Exactement.
Donc, vous voyez, la CEDEAO, qui était le dernier rempart de ces populations, de ces pays qui ont connu les coups d'État, s'est fragilisée elle-même. Et du coup, on ne sait pas si dans ces pays-là où les militaires sont actuellement au pouvoir peuvent encore aller aux élections pour qu'on puisse avoir une gouvernance civile. Je ne crois pas. C'est compliqué. Parce que ces militaires-là, tantôt, c'est des arrestations, soit disant qu'il y a des coups d'État, ou bien tous ceux qui sont critiques vis-à-vis de leur gouvernance sont arrêtés et enfermés. Donc, c'est compliqué. On ne sait pas. On est dans une impasse totale. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Vous avez vu récemment, il a fallu que en Guinée, les centrales syndicales s'entendent pour l'une des rares fois pour appeler à une grève générale illimitée qui va commencer, je crois, lundi. Mais on ne sait pas la suite, ce qui va se passer après. Donc, c'est compliqué. Même, Jamel l'a dit, ses partenaires occidentaux qui disaient il faut sanctionner, il faut faire ci, il faut faire ça, eux-mêmes, ils ne sont même plus en mesure de demander quoi que ce soit à ces dirigeants, puisque leur intérêt même dans ces pays-là dépasse l'intérêt de la population. D'accord. Donc, ils s'en foutent de nous.
D'accord.
C'est
merci
le bordel total partout.
D'accord, merci beaucoup Thierry. Germain?
Oui, non, je crois que le constat est clair. La CEDEAO a mal jugé la situation. Il y avait l'insécurité face à la démocratie. La CEDEAO a fait l'option de la démocratie alors que ce n'était pas ce dont avait visiblement besoin la majorité des populations dans ce pays-là, et elle est allée un peu trop fort. Et on a vu un peu dans le cas de la crise russo-ukrainienne, les sanctions sur la Russie. Ces mêmes pays sont allés réclamer la levée des sanctions. Donc tout ça a contribué à créer des problèmes à la CEDEAO. Maintenant, pour celui qui pense que le Togo donne l'exemple, je crois qu'il connaît mal l'histoire de la CEDEAO, hein. Il y a plus de coups d'État au Ghana qu'au Togo, hein. Il y en a plus au Burkina qu'au Togo. Voilà, donc, non, il ne connaît pas l'histoire. Donc, le coup d'État, il y en a eu, et même les militaires aujourd'hui qui ont créé l'AES se mentent d'ailleurs en disant que c'est des militaires, en majorité, qui ont créé la CEDEAO. Donc, ils pensent que, mais, ils révolutionnent un peu la politique. Sauf que, ils ont raison parce qu'aujourd'hui, les populations ont plus besoin de sécurité que de liberté, de démocratie. Et ça fait que les gens ont tendance aujourd'hui à ne plus faire la promotion de la démocratie, à choisir même la dictature, à choisir un peu l'option donc prise par ces militaires-là. Et je crois que c'est là où la CEDEAO n'a pas eu une hauteur d'esprit de mieux appréhender les choses. Et il n'y a eu qu'un seul président, que ce président dise, c'est le seul qui sait nous parler avec respect, c'est le seul qui nous écoute, et c'est celui-là aujourd'hui qui essaie de faire cette médiation. On espère qu'il réussira.
D'accord, merci beaucoup. On espère qu'il y réussira. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous allons finir cette émission comme cela. Merci beaucoup, chers confrères, d'être passés dans cette émission. Olivier Adja, merci. Firmin Tekouagbo, merci. Thierry Afankwe, merci. Jamais Pouli, merci à toi. Et merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long même d'ailleurs de la semaine. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer cette émission avec vous. Merci à Thomas Dativi qui a assuré la mise en onde. Géraud Akucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Losso. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Passez un bon week-end.
Mama mi balet.